enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Psaume 78, au verset 8 et 9. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père. Si nos parents ont été impies, incrédules, méchants, tortionnaires, Dieu veut que nous ne soyons pas comme eux. Non point parce qu'il les condamne, mais parce que Dieu nous aime et il condamne le péché. Il y a de bonnes imitations, il y a des imitations dont il faut se passer. Si les exemples ne sont pas bons, il faut changer d'exemple. Et si l'exemple n'est pas bon, il ne faut pas le condamner. Dieu a plus à faire avec nous lorsque nous regardons le ciel qui veut nous bénir et que nous ne regardons pas la condamnation que nous voulons voir venir sur les autres. Dieu a plus à faire avec nous quand nous sommes dans un tempérament de foi que lorsque nous regardons constamment en arrière. Il est un fait certain. Les mauvais exemples ne sont pas à imiter et nous n'avons pas à polémiquer pendant des heures dessus ce fait. L'amour de Dieu consiste à nous aider, à nous détacher de ce qui est mauvais. Ce n'est pas parce que nous repoussons de mauvais exemples que nous manquons d'amour. C'est de la sagesse si nous voulons préserver nos âmes et aller au ciel. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père. Il est ici question en l'occurrence d'une paternité qui n'avait pas laissé un bon témoignage. Une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme. Voilà le problème que nous devons combattre. Il y a des problèmes qui ont des solutions uniquement dans le combat. Il y a des combats qui sont des solutions à des problèmes. Nous devons demander au Seigneur de nous donner un cœur ferme et nous devons combattre contre notre chair et notre laxisme et contre la fausse idée de l'amour pour lutter contre tout ce qui est un mauvais exemple. L'amour de Dieu ne consiste pas à nous unir à ce qui est mauvais. L'amour de Dieu consiste à nous couper de ce qui est mauvais en respectant les individus, mais en sauvant nos âmes. Ils n'avaient pas un cœur ferme. Et Dieu veut que nous ayons un cœur ferme. Alors si autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas un cœur ferme, nous allons bien les observer et nous allons dire, Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Fais leur grâce, accorde leur bénédiction. Dans ta miséricorde, que je puisse les exhorter, mais surtout, Seigneur, que mon cœur ne soit pas faible, mais qu'il soit ferme. Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Il est ici question d'un cœur qui n'est pas ferme et qui entraîne une infidélité dans l'esprit, nous allons en parler. La fidélité se situe au niveau de l'esprit. La fidélité de Dieu se situe au niveau de l'esprit qui va déterminer un cœur engagé pour Dieu. Nous allons expliquer ces choses. Continuons de lire. Les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Voilà ce qu'est un cœur qui n'est pas ferme. Un cœur qui n'est pas ferme dit qu'il n'est pas équipé et baisse les bras, alors qu'il est équipé. L'équipement n'a rien à voir avec la fermeté de cœur. Je vous dis que l'équipement intellectuel, l'équipement humain, n'a rien à voir avec la fermeté. Je peux très bien ne pas avoir de moyens et être beaucoup plus ferme que ceux qui ont des moyens. Ne vous trouvez jamais d'excuses à votre manque de fermeté. En disant, Seigneur, si j'étais dans telle situation, Je pourrais être ferme, mais tu vois, ma situation ne me permet pas d'être ferme. C'est un mensonge diabolique. Quelle que soit la situation, Dieu nous donne cette grâce de pouvoir avoir un cœur ferme, d'être ferme face à des situations qui ne sont pas glorieuses pour Dieu. Ce ne sont pas les moyens, c'est la forme. C'est la disposition d'esprit. Si votre esprit est disposé, alors, peu importe les moyens qui sont à votre service, vous pouvez demeurer ferme. Ne pensez pas qu'il y ait des situations qui nous empêchent d'être fermes. Peut-être déjà vous avez dans votre esprit, dans votre intelligence, déjà des rapports qui se font. Et vous vous dites effectivement, Seigneur, tu m'avais demandé d'être plus ferme dans telle situation. Je ne l'ai pas été parce que j'ai cru que je n'en avais pas les moyens. Mais la parole dit que ça n'a rien à voir avec les moyens. Puisqu'il y avait une armée, Éphraïm, tirant l'arc, qui était exercée au combat et qui pourtant, face au combat, a manqué de fermeté, a eu peur et a tourné le dos. Jésus-Christ en nous, c'est la puissance de Dieu qui nous permettra d'être fermes, quelles que soient les situations. La fermeté d'un cœur, c'est de dire oui ou de dire non. Et de ne pas dire oui quand Dieu nous a demandé de dire non. Et de ne pas dire non quand Dieu nous a dit de dire oui. Il faut être des femmes et des hommes exercés afin de dégager quelque chose d'honorable. Si le chrétien ne se tient pas à ses décisions, il sera ballotté de tout vent, de droite et de gauche, et il ne connaîtra plus la volonté de Dieu. Un cœur qui n'est pas ferme amène le doute. Lorsque je ne suis pas ferme dans mes décisions, je vais douter. Douter de ce que Dieu m'a dit, douter de ce que Dieu veut, douter de la volonté de Dieu, douter même de l'existence de Dieu. Or, si je commence à douter de l'existence de Dieu, je suis perdu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ont tourné le dos. Et ce fut dramatique. Allons voir au verset 37. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Fermeté et fidélité vont ensemble. Si je ne suis pas ferme, je ne pourrai pas être fidèle. Et ma fidélité m'entraînera dans ma fermeté. Il y a là un secret. Il y a là une vérité simple. Soyez ferme dans la parole de Dieu et vous serez fidèle avec Dieu. Soyez fidèle avec Dieu et vous trouverez la puissance pour être ferme dans toutes les situations qui vont se proposer à vous. Le psaume 78 nous raconte succinctement l'histoire du peuple juif, des Hébreux sortis d'Égypte, jusqu'à la royauté de David. Ce psaume nous parle essentiellement et met en lumière la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans tous nos parcours. Ce psaume nous montre que le Seigneur Dieu d'Israël, créateur de toutes choses, Dieu unique, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu unique dans le ciel qui nous est créé. Ce Dieu-là, qui est notre Créateur, sera fidèle dans tout notre cheminement. De notre conversion jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher pour régner avec lui. De notre naissance jusqu'à notre mort. Dieu est fidèle pour s'occuper de nous. Le psaume 78 montre bien que Dieu s'est occupé des Hébreux pour qu'ils deviennent Israël. Il s'est occupé de ce peuple esclave, les a fait sortir d'Égypte et les a amenés jusqu'à l'établissement de la royauté selon le cœur de Dieu dans la terre promise. Nous pourrions dire beaucoup de choses à propos de ce psaume, mais je voudrais mettre en évidence pour nous maintenant le fait que Dieu nous montre sa fidélité dans ce psaume et nous invite à lui montrer la nôtre. Dieu a fait de grandes choses pour nous et il continuera d'en faire. Notre fermeté déterminera notre capacité à entrer dans ses bénédictions. Plus nous serons fermes et plus nous ferons avancer rapidement l'œuvre de Dieu pour nous dans notre vie. Chaque manque de fermeté ralentit le plan de Dieu. Dieu vous donne une conviction sur son existence, sur peut-être la décision de faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'alors, sachant que Dieu vous demande de le faire. Peut-être des choses que vous faites timidement pour l'Évangile, vous partez avec une conviction. Si vous restez ferme dans votre cœur, cette conviction va être mise en pratique. Et cette mise en pratique dans la fermeté de ce que Dieu vous a dit va accélérer le plan de Dieu pour vous. Dans le psaume, nous pouvons comprendre que le plan de Dieu est accéléré ou ralenti au rythme de la fermeté de cœur de ses enfants. Cela veut dire que Dieu est maître et souverain. Et quand il veut faire quelque chose, il ne tient pas compte des hommes. Il le fait. Mais dans son amour, il respecte notre rythme et notre cheminement avec lui. C'est ainsi que nos manques de fermeté vont rompre son alliance et vont ralentir son plan pour nous. Il est question de comprendre qu'un cœur ferme est le reflet d'un esprit fidèle et que cet esprit fidèle, c'est le respect de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu nous cherche et dans sa grâce, il a mis le désir que nous le cherchions. Nous l'avons rencontré et maintenant nous devons cheminer ensemble. Comment est-ce que nous allons cheminer avec le Seigneur, avec son alliance? Plus nous allons lire sa parole, plus nous allons comprendre les termes de son alliance qui nous libère. Car Dieu n'a pas fait un contrat d'alliance avec nous pour nous faire souffrir, mais pour nous libérer. Si vous êtes ferme quand vous lisez la parole et que Dieu vous a parlé et que fermement vous restez campé sur ce que Dieu vous a dit, vous irez beaucoup plus vite. J'irai beaucoup plus vite. Et je ne ralentirai pas le plan de Dieu. Ceci est important parce que nous vivrons éternellement avec Jésus. Et voyez-vous, lorsque nous allons passer de l'autre côté, nous allons passer dans l'état de spiritualité avec lequel nous aurons quitté la terre. Au ciel, il ne sera plus possible de grandir dans la foi. C'est ici-bas qu'il faut grandir dans la foi. Et plus nous arriverons grands dans la foi au ciel, plus le Seigneur nous confiera de grandes choses. Moi, je ne veux pas rester à rien faire au ciel. Vous savez qu'il y aura de l'activité au ciel. Avant même que le péché ne soit entré dans le jardin d'Éden, il y avait deux notions importantes qui demeurent. La loi, des règles. Dieu avait dit, tu ne feras pas cela, tu ne toucheras pas à l'arbre. C'est une règle, c'est une loi. Et pourtant, il n'y avait pas de péché. Adam et Ève voyaient Dieu face à face. Ils parlaient avec lui. Ils lui posaient des questions. Dieu répondait directement. L'homme pouvait voir la face de Dieu sans mourir. C'était le jardin d'Éden, c'était le paradis sur terre. Et pourtant, Dieu avait mis des règles. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux choses qui subsistent. Premièrement, ce que je viens d'évoquer, la loi. Et deuxièmement, l'activité. Activité égale fidélité. Celui qui est fidèle est actif. Je voudrais donc insister sur le fait qu'au ciel, il y aura des règles qui subsisteront, qui ne pourront pas être violées, et qui ne feront pas souffrir, des règles dans l'amour et la grâce parfaite, mais des règles quand même, et il y aura l'activité. Nous ne resterons pas à rien faire. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, il est dit qu'il l'a placé pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Il n'y avait pas encore de péché, n'est-ce pas? Le péché n'était pas entré en Éden, et pourtant l'homme doit fournir une activité. Cette activité ne sera pas une activité difficile, lourde à porter. C'est quand il aura commis le péché que les deux principes qui demeureront éternellement vont devenir un fardeau pour lui. Les règles, la loi deviendra un fardeau et le travail deviendra un fardeau. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Activité qui devient une malédiction. Avec Jésus, nous sortons de ces malédictions. La loi n'est plus malédiction et l'activité n'est plus une malédiction. Et Dieu nous donne la force pour travailler. Dieu nous donne l'enthousiasme pour ne pas nous plaindre. Et plus nous sommes dans l'activité, plus nous serons fidèles. Alors nous voulons comprendre ici que le Seigneur met l'accent sur sa fidélité et qu'il nous demande quelle est la nôtre. Quelle est notre fidélité? Avons-nous un cœur ferme au point de rester fidèle à ce qu'il nous a dit? Savez-vous une chose? Quand Dieu nous donne ordre d'entrer dans l'activité, lorsqu'il nous donne ordre de faire quelque chose, lorsqu'il nous a convaincus pour changer de vie, car l'évangile, c'est un changement de vie, c'est quitter ce qui est mauvais pour prendre ce qui est bon, c'est changer de camp, c'est devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, nous faisons des choses. Nous avons une certaine forme d'action et d'activité. Cette activité-là est le reflet de notre fidélité. Si je suis ferme et que je fais ce que Dieu m'a dit, alors je serai fidèle. Et cette fermeté m'entraînera dans une accélération de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui piétinent et qui piétinent parce qu'ils ne sont pas fermes. Il manque de fermeté. Alors, je voudrais mettre tout de suite nos cœurs à l'aise. Il ne faut pas confondre cœur de pierre et cœur ferme. Cœur dur comme de la pierre. Il ne faut pas confondre cœur de pierre et cœur ferme. Ce n'est pas parce que j'ai un cœur ferme que j'ai un cœur dur. Et si je suis ferme et que mon cœur est dur, cette fermeté ne vient pas de Dieu. Elle vient de la loi, de la propre justice. Elle vient de l'orgueil. Si je suis ferme avec le Seigneur, je dois manifester un cœur de chair. C'est dans Ézéchiel 36, 26. Il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. » Nous sommes bien sur terre et nous pouvons faire du mal. Nous pouvons avoir un cœur qui fasse du mal. Là, le Seigneur ne nous spiritualise pas dans le ciel. Il dit bien qu'il va faire de nous des gens nouveaux et qu'il va ôter notre méchanceté. Il dit « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Savez-vous que plus les gens sont méchants, plus leur cœur est lourd? Il y a même des chercheurs qui ont comparé sur tout un échantillon de personnes qui venaient de décéder la couleur du sang dans le cœur. Plus les gens avaient une vie pieuse et plus ce sang était clair. Plus les gens avaient une vie de débauche, plus ce sang était noir. Et je peux vous assurer que si Dieu dit « J'ôterai de votre corps », c'est qu'il y a bien des maladies qui sont produites par la méchanceté. Il y a bien une conséquence corporelle de la méchanceté de l'homme sur le physique de l'homme. Tôt ou tard, ces choses se révèlent. Je vais insister sur le fait que Dieu dit « J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». Si Dieu dit qu'il donne un cœur de chair et qu'il ôte la dureté du cœur, ce n'est pas pour dire dans le psaume 78 que notre cœur ferme doit être un cœur de pierre. Donc nous devons mettre ces deux versets en parallèle et ne pas les mettre en opposition pour comprendre que la fermeté de Dieu n'implique pas la méchanceté ou la dureté de cœur. La fermeté de Dieu implique une discipline pour soi-même, mais pas pour les autres. Un cœur ferme est un cœur qui prend ses propres décisions et qui est discipliné pour soi-même. Ils n'avaient pas un cœur ferme pour eux-mêmes et leur esprit n'était donc pas fidèle. La fidélité se trouve au niveau de l'esprit et non pas de l'âme. L'âme va exprimer la fidélité, mais la vraie fidélité se trouve dans l'esprit. C'est pourquoi, la chair étant faible, l'âme, se croyant parfois fidèle, commet des infidélités. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il nous invite à être spirituels et à faire vivre l'esprit. Si vous vivez votre foi avec vos sentiments, vous ferez naufrage. Parce que la fidélité ne tient pas dans les sentiments. Les sentiments sont exprimés par l'âme. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je décide de faire, c'est ce que je fais. Alors je dis que je vais être fidèle, mais l'âme est incapable d'être fidèle. Il faut la puissance du Saint-Esprit régénérant notre esprit pour demeurer fidèle. Il faut la puissance de Dieu en nous pour être fidèle. Si je m'exerce à la fermeté, la fidélité va s'installer dans mon esprit. Je ne peux peut-être pas me forcer à être fidèle, mais je peux me forcer à être ferme dans l'obéissance, sachant que les deux sont indissociables. Car si je suis ferme et que je mets en pratique, que je me force à mettre en pratique la parole, quelque part, je me force à être fidèle. Mais il faut savoir qu'il y a un mystère. La puissance qui nous permet d'être fidèles, c'est Dieu qui la donne au niveau de l'esprit. Notre âme n'a qu'à chercher à être ferme. Il suffit de croire ce que la parole de Dieu dit. Et il suffit de s'engager soi-même. Je voudrais vous laisser quelques exemples. Il y en a plusieurs. En quoi devons-nous être fermes? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous pouvons trouver plusieurs domaines dans lesquels nous devons être fermes. Mais je voudrais vous en citer quatre qui me paraissent importants et qui résument un peu l'ensemble de la liste des points pour lesquels nous devons être fermes et qui se trouvent dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 16, 13. Je citerai quatre références maintenant. Demeurez fermes dans la foi, virgule, soyez des hommes. Sous-entendu, soyez aussi des femmes. Vous savez que le langage biblique n'est pas matriarcal. Le langage biblique s'adresse à l'humanité, au masculin, englobant le féminin, naturellement. Alors, la Bible nous dit « Demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et des femmes. » Ceux qui ne demeurent pas fermes dans la foi en Jésus-Christ ne sont pas des femmes et des hommes. Ils sont des êtres humains qui ont besoin d'accéder à l'image d'hommes et de femmes. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image et la femme à son image. Si nous voulons être des hommes et des femmes, nous devons revenir à l'image de Dieu. Si nous ne sommes pas dans l'image de Dieu, c'est que nous sommes encore des créatures faibles, que nous ne sommes pas dans notre identité. Dieu vous a donné une identité. Mon frère, ma sœur, cher ami, Dieu vous a donné une identité. Cette identité, c'est être homme et être femme, ferme dans ses décisions, honorable dans ses prises de position. Le Seigneur dit que nous devons être des hommes, dans le sens où nous devons revenir à l'image que Dieu avait espérée de nous. Le caractère de Dieu, c'est la fermeté et la justice. Dieu ne vous dit pas aujourd'hui oui pour vous dire non demain. Dieu ne vous dit pas aujourd'hui une chose pour après vous dire son contraire. Ce serait la confusion, n'est-ce pas? Dieu, dans sa miséricorde, peut changer des situations, mais il ne change pas la vérité. La vérité que Dieu nous annonce aujourd'hui sera la même demain. Sinon, ce serait la confusion. Nous devons être fermes. Dieu m'a beaucoup parlé, vous savez, de fermeté ces temps-ci. Le Seigneur m'a parlé intimement de la fermeté. Et il m'a dit, « Fils, les temps qui vont venir ont besoin de fermeté. pour affronter les temps qui vont venir et pour entrer dans la gloire que Dieu a prévue, nous devons être fermes. Sinon, nous allons tout perdre. Soyez fermes dans la foi. Si vous avez découvert le Seigneur, que vous avez l'espérance du salut, que vous croyez que Jésus soit mort à votre place sur la croix, demeurez ferme dans cette foi et ne la laissez pas tomber. Vous serez un homme. Je vous assure qu'il faut être fort et ferme pour croire et pour conserver la foi que Dieu nous a donnée. Nous devons être fermes dans ce que nous croyons. Ne bradez pas votre foi, votre intime conviction des choses. Je vous en supplie, ne bradez pas ces choses. Demeurez ferme dans ce que vous croyez. Dans ce que vous croyez et que Dieu vous a dit. Chose qu'il a confirmée dans vos vies, dans nos vies. Deuxième chose, Éphésiens 6, 11. Ferme dans le combat. Nous devons livrer des combats. Et nous ne devons pas faire comme Éphraïm, tourner le dos. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Éphraïm, qui était armé, tirant l'arc, il a tourné le dos. Qui ira au combat si nous tournons le dos? Ferme dans le combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Alléluia. Si Dieu m'a donné quelque chose, je le tiens dans ma main et croyez-moi que je veux le tenir fermement afin que le diable ne me l'arrache pas. La fermeté est une puissance qui nous vient du Saint-Esprit. Troisième référence, Hébreux 3, 6. Ferme dans la confiance et l'espérance. Est-ce que votre confiance est ferme? Est-ce que votre espérance demeure ferme avec le temps, avec la pluie, avec les combats, avec les tempêtes? Hébreux 3, 6 dit que nous sommes l'habitation de Dieu. Hébreux 3, 6 est en train de dire que nous sommes l'habitation, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Confiance et espérance. Nous allons tenir ferme jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin de l'épreuve. Quand l'épreuve est finie, ça ne sert plus à rien d'être ferme, n'est-ce pas? Si je prie pour le réveil, je dois être confiant et être dans l'espérance jusqu'à ce que le réveil vienne. Quand il sera là, je n'aurai aucun mérite et je n'aurai plus besoin d'être ferme. D'ailleurs, à quoi sert le mérite? Nous sommes sauvés par grâce. Mais ce que je veux dire, à quoi servira-t-il d'exercer ma fermeté vu que la chose sera accomplie? Je ne pourrai plus édifier ma foi, je ne pourrai plus faire naître la fidélité dans mon esprit, je ne pourrai plus entretenir la fidélité dans mon esprit. Comprenons que la fermeté est un ferment de fidélité, l'un étant lié à l'autre. Ferme dans la confiance et l'espérance, nous l'avons lu, je suis confiant, ferme dans ma confiance et on peut venir me dire le contraire, on peut me dire que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est pas avec moi, je suis confiant. Je suis parfaitement confiant et je resterai ferme. Et béni soit le Seigneur de ce que nous ne sommes pas dans des temps de persécution, parce que nous savons qu'avant nous, il y a eu des gens, il y en aura encore après nous, qui devront payer leur fermeté au prix du sang de leur vie. Ce n'est pas compliqué d'être ferme dans votre confiance et dans votre espérance aujourd'hui. Quatrième point et dernier point, ferme dans l'assurance, confiance, espérance et assurance. Il y a quelques différences entre la confiance, l'espérance et l'assurance. Je vais dans Hébreux 3, 14 maintenant. Chapitre 3 nous livre ce mystère de la fermeté dans la confiance, l'espérance et l'assurance. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin encore l'assurance que nous avions au commencement. Il y a des gens qui veulent savoir s'ils ont conservé leur premier amour. Regardez si vous avez conservé votre assurance en Dieu. J'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que nous avons l'assurance de notre salut? Est-ce que nous avons toujours autant l'assurance de notre salut comme nous l'avions au début lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus? J'ai confiance dans les promesses de Dieu. J'ai l'espérance dans la puissance miraculeuse de Dieu. Et j'ai l'assurance de mon salut, l'assurance que je marche dans la bonne voie. Il y a des gens qui veulent nous faire perdre notre assurance. Ce n'est pas une assurance que nous payons chaque mois, c'est une assurance que Dieu nous a donnée gratuitement. L'assurance de notre salut, l'assurance qu'il est avec nous, l'assurance que nous marchons fidèlement sur la bonne voie. Si vous êtes à l'église, ne vous posez pas la question, soyez dans l'assurance. Si vous êtes à l'église, c'est que vous êtes sur la bonne voie et peut-être vous êtes très très près de l'enfer. Mais le fait de venir à l'église vous rapproche du paradis. Comme je le dis souvent, entre le paradis et l'enfer, il n'y a qu'une petite ligne fine. Et parfois, il y a beaucoup de gens, de chrétiens, qui sont plus près de l'enfer que du paradis. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'ils sont dans l'église. Parce que avec cela, ils rentreront dans le paradis et la grâce de Dieu. Retenons ce que le Seigneur nous a dit. Fermeté. Demain dans le monde, demain au travail, demain à la caisse du supermarché, demain dans la famille, quelle sera ma fermeté dans la foi? Quelle sera ma fermeté avec Jésus-Christ? Je me souviens que ma fermeté ne m'autorise pas un cœur de pierre, mais m'oblige à un cœur de chair, et que cette fermeté est pour moi-même. Je peux rester ferme en étant très calme, et je dois rester ferme en étant très calme. Le calme est quelque chose qui déstabilise, je vous assure, ceux qui sont incrédules. L'incrédule est agité. Et quand on n'a plus de fermeté, on est très agité. Mais quand on est vraiment calme dans ses décisions et dans ses paroles, on fait chanceler l'incrédulité. Nous voulons, n'est-ce pas, que le Seigneur nous aide à avoir un cœur ferme, afin que notre esprit reçoive la puissance de la fidélité de Dieu. Et que notre esprit exprime notre fidélité vers Dieu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.